Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique. Regard aujourd'hui sur les États-Unis. La campagne présidentielle américaine démarrera officiellement avec le caucus de l'Iowa début février, mais déjà tout va aller très vite à partir de maintenant. Ça a même déjà commencé avec la convention du Parti démocrate en Californie qui s'est conclue le 2 juin à San Francisco. Et dans quelques semaines, les 26 et 27 juin, les candidats vont s'affronter au cours des premiers débats télévisés des primaires démocrates à Miami, en Floride. Les dates de la Convention nationale démocrate ont été fixées du 13 au 16 juillet 2020 à Milwaukee dans le Wisconsin. 23 candidats briguent l'investiture démocrate avec des profils très différents, des jeunes espoirs aux vieux routiers de la gauche américaine. Le maire de New York, Bill de Blasio, a été le dernier à se déclarer. Les deux favoris sont à ce jour Bernie Sanders, dont ça ne sera pas la première campagne, et Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama. Mais des surprises, il y en aura sûrement, l'Amérique sachant nous en réserver. Regard avec nos invités. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, auteur de Les États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York, auteur de Les ombres de l'Amérique de Kennedy à Trump aux éditions François Bourin, bonjour.
Bonjour.
Et Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire et co-auteur de Les États-Unis dans le monde, de la doctrine Monroe à la création de l'ONU aux éditions Atlante. Bonjour.
Bonjour.
23 candidats, je le disais en introduction, côté démocrate, dont 5 femmes. Votre regard à chacun sur cette abondance de candidatures. Laurence Nardon.
La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est intéressant de voir que c'est l'inverse de la situation de 2016, où il y avait une profusion de candidats côté républicain, souvenez-vous, face à une campagne démocrate qui, à l'époque, était trustée par Hillary Clinton. Bernie Sanders avait été un petit peu un problème pour elle à l'époque, mais enfin, les choses étaient plus claires. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste côté démocrate, c'est à la fin de la mainmise de décennies du clan Clinton-Obama sur le parti. C'est-à-dire que comme ils sont maintenant partis de la scène, il y a une efflorescence de nouvelles idées, de nouveaux profils qui se produit et qui explique l'abondance des candidats dans cette primaire qui commence maintenant.
Alors, pour ce qui est des femmes, Dick Howard, il y a quand même une absente, c'est Michelle Obama, dont on avait pensé que peut-être un jour, elle aurait pu... Dick Howard, ou c'est peut-être moi toute seule qui ai pensé ça.
On avait pensé, mais certainement pas Michelle Obama, c'est pas une femme politique. Non, je crois que pourquoi il y a tant de candidats, c'est que les élections de mi-mandat ont montré effectivement qu'il y a une place à prendre, qu'il y a quelque chose dans l'air, un ressentiment qui se fait sentir, et c'est curieux. Alors que Trump a été porté d'une certaine manière par le ressentiment de la classe ouvrière blanche, dans les 3 États importants, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Maintenant, le ressentiment est du côté, disons, des plus éduqués, des plus diplômés des gens. C'est une curieuse situation.
Une évolution, donc, grand incélin.
Oui, il y a aussi un facteur paradoxal, c'est que c'est la première primaire post-Trump. Et il faut rappeler que Trump a démontré lui-même, dans l'autre camp en 2016, que n'importe qui pouvait devenir président, c'est-à-dire un homme sans aucune expérience politique, même sans le moindre mandat local, pouvait, par le processus des primaires, qui sont devenus une sorte de panorama médiatique qui s'étend presque sur 2 années maintenant, pouvait surgir du néant et accéder à la présidence. Et on voit bien que ça encourage de très nombreux démocrates avec des profils très atypiques. Historiquement, on a des maires, alors que on sait bien que jamais un maire a été élu directement à la Maison-Blanche.
Bill de Blasio, pour ne pas le nommer, maire de New York.
Par exemple. Et on voit bien que donc c'est Trump lui-même qui a encouragé dans l'autre camp toutes les candidatures, même les plus improbable, on va dire.
Alors, 23 candidats, 5 femmes. Parmi tous ces candidats, j'évoquais les noms de Bernie Sanders et Joe Biden. Il y a aussi une femme qui sort peut-être des autres. Je parle sous votre contrôle, Laurence Nardon, Elizabeth Warren, qui est sénatrice du Massachusetts.
Ah oui, je pensais que vous alliez me parler de Kamala Harris, qui est la gouverneure de Californie. Mais enfin, aujourd'hui, c'est quand même difficile, effectivement, de voir sur qui... L'électorat va se cristalliser à la fin, c'est vraiment la boule de cristal. Comme vous le dites très bien, il y a Biden et Sanders qui sont les favori dans les sondages aujourd'hui, deux messieurs blancs très âgés, avec l'un qui est plutôt un profil de centriste modéré, Biden, et puis l'autre, Sanders, qui est un candidat socialiste, entre guillemets, il le dit lui-même, mais c'est un très gros mot dans le vocabulaire politique américain. Le problème d'Elizabeth Warren, donc, qui est un petit peu sur la même ligne, c'est-à-dire elle aussi une personne qui a un programme économique très radical dans le contexte américain, Medicare for All, enfin, des choses très à gauche dans le contexte américain, du coup, elle a du mal à se détacher de Sanders. Donc, c'est pour ça que je la mettrais pas forcément en numéro 3. Oui. Kamala Harris, dont je parlais tout à l'heure, elle est sur un autre créneau qui est, je dirais, un créneau plus multiculturel. Mais je sais pas si on va commencer dès à présent à détailler les grandes failles idéologiques de la campagne au sein du Parti démocrate. Il y a sur l'économie les centristes et les radicaux, on vient d'en parler. Il y a une autre fracture qui est multiculturalisme, politique des minorités versus défense de la classe moyenne qui est plutôt blanche. Voilà, il y a un certain nombre de fractures comme ça.
Alors effectivement, on détaillera tout ça. Quentin Célin, vous souhaitez.
Oui, je voulais juste ajouter qu'au-delà des personnes, il faut quand même bien rappeler deux points essentiels. C'est que pour l'instant, le fait que Biden et Sanders soient en tête des sondages, c'est surtout dû au fait que ce sont les deux candidats nationalement les plus connus. Il y a un ancien vice-président et Sanders qui a été le principal concurrent de la primaire 2016. Il faut bien rappeler que beaucoup des autres candidats sont inconnus en dehors de leur propre État. Il y en a même certains, je ne suis pas sûr qu'ils soient très connus dans leur propre État. Donc ça, c'est très important. Et d'autre part, il faut rappeler que toutes les dernières primaires démocrates ont eu des surprises qui rendent, comme le disait très bien Laurence, tout pronostic impossible. En 2004, à la même époque, on pensait que c'était l'ancien colistier de Gore, Lieberman, qui était en tête des sondages et qui finalement a fait une candidature désastreuse. Et donc, il faut bien rappeler que toutes les primaires démocrates ont donné lieu à des surprises. Obama, un an avant la primaire en 2007, il n'était pas en tête, il était derrière Clinton. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de ces états de situation alors qu'on est encore très loin de la première élection.
Alors, ce début de campagne, Dick Howard, il se fait tout de même, cette fois-ci, très en amont par rapport à l'élection. Je vois que la Californie a décidé d'avancer la date de ses primaires de juin au 3 mars 2020. On sent qu'il y a une vraie mobilisation, particulièrement du côté démocrate, bien évidemment, côté républicain, même si peut-être Trump se déclarera à la mi-juin. Enfin, il y a encore beaucoup d'hypothèses. En tout cas, 23 candidats démocrates, tout ça veut dire que, d'une part, ça va être beaucoup d'argent dépensé par les démocrates pour se disputer les uns par rapport aux autres. Ça témoigne aussi d'un manque d'homogénéité probable du Parti démocrate. Comment voyez-vous les choses ?
Je vois ça dans une perspective historique et ça m'amène à mettre en question le processus des primaires plus généralement. Dans mon livre, ça s'appelle « De Kennedy à Trump », et effectivement, du temps de Kennedy, il n'y en avait pas de primaire. Il y en avait deux ou trois qui ne comptaient pas pour grand-chose. Il y avait tout de même une primaire qui comptait. C'est Kennedy qui se présente dans une primaire dans la Virginie occidentale. Et pourquoi ? Pas pour les votes, mais surtout pour montrer qu'un catholique pourrait passer dans un État plutôt protestant. Ensuite, le processus de développement des primaires prend, surtout dans la foulée de Watergate. Et ensuite, il y a un phénomène qui est fascinant, qui anticipe Trump. C'est-à-dire, il y a la candidature d'un milliardaire, mais cette fois un vrai milliardaire qui a gagné son argent, qui n'a pas hérité, qui s'appelait Ross Perot, qui va s'opposer justement à Clinton et à Bush senior. Mais il s'y oppose en tant qu'indépendant. La question que je veux poser, c'est, bon, les primaires, est-ce que c'est un peu, comment dirais-je, un coup de dé, finalement, ou est-ce que c'est un processus...
Coup de dé, vous voulez dire avec une forme de hasard?
Absolument. Bon, il y a des débats. Est-ce que quand Trump s'est imposé chez les républicains, c'était à force de coup de gueule et de couardise, d'une certaine manière, de certaines candidates? Est-ce que ça va être la même chose chez les démocrates avec deux débats, avec 10 candidats chaque fois sur l'estrade? Je vois très mal. En même temps, l'exemple de Perot montre aussi qu'on ne peut pas éviter de candidater au sein d'un parti. Et ça pose la question, quelle est la fonction actuellement des partis politiques dans nos systèmes. Je n'ai pas besoin de faire allusion à la France de nos jours, où les perspectives partisanes sont de plus en plus mises en question.
Laurence Dandon.
Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Dick Howard, parce qu'effectivement, il y a une question de hasard et puis de charisme, des accidents de qui se produisent dans la campagne. Il y a un autre élément très important, vous parlez des partis. Dans les réunions qui ont eu lieu en Californie au Parti démocrate ces derniers jours, les règles des primaires ont été modifiées, et je ne peux pas en dire tellement plus, parce que je n'ai pas encore lu beaucoup de détails sur ces modifications, mais ça va certainement jouer un rôle dans la manière dont le ou la candidate va être sélectionnée, puisque ce sont des changements qui vont faire plus de primaires ouvertes, donc plus de gens, et notamment plus de minorités, pourront venir voter aux primaires démocrates dans certains États. Et donc ça pourrait avoir une grande importance, cette espèce de fonctionnement, c'est très tatillon, on est vraiment dans les petits rouages de la vie des partis, mais ça pourrait avoir un impact très important sur la candidature pour 2020 du Parti démocrate. Donc je le signale. Parce que, voilà.
Alors, le Parti démocrate, il a très mal vécu la défaite de 2016, des faits qu'ils n'ont jamais acceptés, et ils ont immédiatement basculé dans une opposition féroce et totale à Trump. Dans quel état est-il, ce Parti démocrate, aujourd'hui, Corentin Sellin ?
Alors, il est justement dans un état d'incertitude idéologique qui explique aussi la profusion des candidatures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'analyse post-mortem de la candidature ratée, au final, d'Hillary Clinton. En partie parce que en 2017, il y a eu l'élection d'un nouveau président du parti, du Comité national démocrate, qui a été verrouillé par les Clintoniens. Aujourd'hui, ce président, c'est Tom Perez, qui est un ancien ministre d'Obama, très proche des Clinton, et qui a totalement verrouillé le débat. Le débat, il est le suivant. Est-ce que Hillary Clinton a fait ou non une bonne campagne ? La réponse est plutôt non. Par exemple, pourquoi elle n'est pas allée faire campagne, on lui reproche souvent, dans le Midwest, au Wisconsin, durant l'élection générale, pourquoi elle n'est pas allée parler à l'électorat populaire blanc ? Et est-ce qu'il faut donc aller rechercher cet électorat populaire blanc ? Ou bien on peut considérer qu'elle a fait une bonne campagne puisqu'elle a gagné le vote populaire, et il suffirait donc, en quelque sorte, d'élargir le socle des électorats démocrates jeunes, minorités, traditionnels, pour arriver à une victoire cette fois au collège électoral. Donc, il y a ce travail d'analyse de la défaite qui n'a pas été menée et qui est menée en fait en direct durant la primaire, puisqu'il y a certains candidats, comme Biden, qui vont dire « on reprend la ligne Clinton, on défend l'héritage Obama, la continuité », et il y en a d'autres qui disent « non, pas du tout, il faut aller rechercher l'électorat populaire blanc, aller faire campagne dans le Midwest, aller chercher les électeurs qui sont partis chez Trump ». Et donc, c'est ça que la primaire tranchera également.
Dick Ward, vous partagez ce que vient de dire Corentin Sellin ?
Je partage et j'ajoute qu'effectivement, il y a aussi un côté idéologique qui est en question, à savoir la popularité de Bernie et le slogan « socialisme ». Et ça veut dire « croit au juste aux États-Unis ». Je crois encore, si on reprend l'histoire de Kennedy à Trump, encore une fois, tout tourne autour de la question « comment réaliser le New Deal ?». Et d'une certaine manière, l'histoire de la politique américaine, l'histoire des deux partis, c'est les démocrates, en gros, qui veulent réaliser encore le New Deal, c'est-à-dire la réforme de la santé chez Clinton, ou encore aujourd'hui, finalement, chez Bernie et les siens, ce serait aussi le New Deal vert qui est proposé. Donc,
vers quel côté, vous parlez d'environnement, les questions environnementales.
Exactement. Tandis que la politique du côté républicain, c'est justement le refus du New Deal. C'est curieux. Pourquoi un nouvel ère commence avec Kennedy? C'est finalement que, après la guerre, il y avait, bon, les restes, il y avait le vice-président de Roosevelt qui était mort, mais ensuite, à partir de là, le président est Eisenhower. Et Eisenhower est républicain. Mais c'était un homme, en fait, au-dessus des partis, d'une certaine manière. Les démocrates le recherchaient comme candidat en 52, les républicains le cherchaient, il est allé chez les républicains, mais il n'a jamais mis en question le New Deal. Tandis que, à partir de 60, le New Deal est de plus en plus directement mis en question chez les républicains, et ça aboutit peut-être avec Trump.
Alors, deux questions pour poursuivre sur cette analyse de ce qui se passe chez les Républicains. Laurence Nardon, est-ce qu'un candidat très à gauche va émerger finalement des primaires au sein du Parti démocrate ou le contraire? Et quels vont être les grands sujets de campagne? Il y en a quelques-uns qui ont émergé. Dick Howard disait un mot sur l'environnement. Et puis les questions sociétales, l'avortement...
Les grands sujets, c'est donc l'éventualité d'un Green New Deal, c'est qui serait une sorte de programme immense de remise en cause de tout notre système économique dans une perspective plus environnementale. Les questions de santé, donc plutôt une sorte de Medicare for All, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une couverture sociale et santé beaucoup plus large. Et puis... L'avortement est une question extrêmement brûlante du point de vue culturel, mais je pense pas qu'en termes électoraux, en termes sociaux, ce soit aussi important que une assurance santé pour tout le monde, si vous voulez. Je pense que c'est plus une question culturelle que sociale, véritablement. Un autre point que je trouve extrêmement important qu'il faut rappeler, c'est la bonne santé de l'économie et surtout le miracle auquel on assiste depuis quelques mois et qui est enfin, depuis 2008, la remontée des bas salaires. Et ça, qui est constaté, il y a eu des études de la Fed de Saint-Louis, enfin qui est sur ce sujet, et qui montre que depuis 9 mois, les salaires bas et moyens dans le pays commencent à remonter à un taux de plus de 3% par mois. Ce qui est extrêmement important, parce qu'en fait, le problème depuis 2008, c'est que même si l'emploi était remonté, que la croissance était revenue, etc., les bas salaires ne redécollaient pas. Sous Obama, il n'était pas remonté. Et qu'il commence enfin à remonter sous Trump, c'est quand même une excellente nouvelle pour les Américains. Ça, je n'en disconviens pas. Mais de manière très cynique, on pourrait dire une assez mauvaise nouvelle pour les candidats démocrates, notamment pour Biden, qui porte le bilan des années Obama, puisqu'il était vice-président, va avoir beaucoup de mal à aller essayer de séduire les classes moyennes peu diplômées qui ont voté Trump en leur disant que c'est un mauvais président pour eux et que lui, il fera mieux. Comment va-t-il pouvoir défendre cette idée alors que précisément, depuis que Trump est là, les salaires des Américains les plus modestes commencent à remonter?
Dick Howard.
Je suis d'accord avec la dernière remarque, mais celle qui l'a précédée, je la mettrai en question, à savoir les questions sociétales, parce qu'il faut pas oublier que si Trump a fini par gagner, c'était grâce au vote justement des fondamentalistes religieux. Et Trump avait promis, par exemple, et je crois que ça a scellé l'affaire, Trump avait promis qu'il nommerait des juges anti-IVG.
À la Cour suprême.
À la Cour suprême. Ben, partout d'ailleurs, oui. C'est assez étonnant ce qu'il a réussi à faire. Et pourquoi ces fondamentalistes votent-ils à droite? Pourquoi ils s'impliquent dans la politique? Et là, c'est encore une affaire. Au début de Kennedy, je faisais allusion à la Virginie occidentale et le catholicisme, etc. Mais au début de cette période, les fondamentalistes protestantes, surtout au sud, voulaient rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu. Et donc, ils se mêlaient pas de la politique. Comment se fait-il qu'ils se trouvent mêlés à cela? Et ça a à voir, c'est une longue histoire que je vais pas raconter, mais ça a à voir avec les réussites du mouvement des droits civiques et la manière dans ces fondamentalistes qui sont aussi des petits blancs racistes, pourquoi et comment ils réagissaient à cela?
Corentin Salin.
En fait, ce qui me frappe, c'est qu'on parle depuis plusieurs minutes des primaires démocrates et il y a une figure qui est omniprésente, c'est Trump. Et ça, je crois que c'est très important, c'est que le débat programmatique semble pour l'instant un petit peu relégué au second plan par rapport à une question qui apparaît prioritaire, c'est qui est le meilleur pour battre Trump et comment, comme disait Dick Howard tout à l'heure, utiliser le ressentiment très fort dans les électorats socle démocrates envers Trump pour obtenir l'investiture présidentielle. Et justement, on pourrait effectivement se demander si ce n'est pas très risqué de transformer pour tous ces candidats démocrates l'élection, même déjà dès la primaire, en simple référendum anti-Trump et en qui est le mieux à même de battre Trump. Parce que il faut s'en souvenir, justement, en 2016, Hillary Clinton a finalement été battue alors que tout le monde la voyait gagnante. Et est-ce que les démocrates n'ont pas plutôt intérêt à se concentrer sur un programme, à reconstruire une identité écologique, économique, etc., plutôt que de faire une sorte de course de chevaux à qui est le meilleur contre Trump?
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités, Corentin Sellin, Dick Howard et Laurence Nardon. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la campagne présidentielle américaine qui démarrera officiellement avec le caucus de l'Iowa en février prochain, mais déjà dans quelques semaines, les 26 et 27 juin, les candidats vont s'affronter au cours des premiers débats télévisés des primaires démocrates à Miami en Floride. Regard sur cette campagne avec nos invités, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, auteur de Les États-Unis de Trump en 100 questions, paru aux éditions Talendier, Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York et auteur de Les Ombres de l'Amérique de Kennedy à Trump aux éditions François Bourin, et Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire, co-auteur de Les États-Unis dans le monde, de la doctrine Monroe à la création de l'ONU aux éditions Atlante. Nous évoquions à la fin de la première partie de l'émission la question du débat au sein du Parti démocrate. Est-ce que ce début de campagne fait apparaître un programme? Dans cette diversité des candidatures, on l'a évoqué, 23 candidats démocrates, dont 5 femmes. Qui est le mieux placé pour battre Donald Trump? C'est un peu la question qui peut se poser, Laurence Nardon.
Oui, je ne suis pas sûre que je vais me lancer dans une réponse à ce stade, mais je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Corentin dans la section précédente de l'émission. La question qu'il posait, c'était est-ce que finalement être anti-Trump pour les démocrates, ça peut suffire pour gagner l'élection de 2020? Est-ce que se passer d'un vrai programme et d'un vrai récit pour l'Amérique, mais juste taper sur Trump, peut suffire? Et là-dessus, moi, j'ai été très frappée par le résultat des élections de mi-mandat en novembre dernier, 2018. On a quand même assisté à une très très forte mobilisation des électeurs démocrates dans cette élection. Je dirais sans qu'il y ait une unité idéologique du parti, puisqu'elle est tellement difficile à définir aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Et je crois que être anti-Trump, malheureusement, ça peut marcher. Je dis malheureusement parce que si un candidat démocrate est élu sans avoir véritablement un programme extrêmement clair, ou en tout cas sur lequel les Américains seraient d'accord, ce sera pas forcément très efficace ensuite pour une présidence.
Alors, si on doit le résumer, l'anti-Trumpisme, ce qu'on peut dire aujourd'hui, je parle sous votre contrôle à chacun, c'est que finalement, en quelque sorte, 4 dynamiques sont en jeu dans cet anti-Trumpisme. Il y a l'opposition démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat. Ce sera peut-être intéressant de revenir sur la question du rapport Mueller et cette question qui est évoquée d'un possible impeachment de Donald Trump. Deuxième dynamique, les candidats démocrates à l'investiture pour 2020. On en a parlé à ce stade, il est encore trop tôt peut-être pour définir davantage. Il y a la dynamique de la rue, avec les mobilisations militantes des femmes contre la limitation de leurs droits par l'administration en place. On l'évoquait rapidement dans la première partie de l'émission autour des questions liées à l'avortement. Et puis, quatrième dynamique, l'opposition éventuelle à Trump au sein du Parti républicain. Où est-ce qu'on en est dans chacune de ces dynamiques, Dick Howard?
Je ne suis pas prêt à prendre position en ce moment, parce qu'il y a une chose qui va venir, qui est beaucoup plus important que ces débats à Miami déjà en juin. Il faut se souvenir qu'il y a la question de l'action du Congrès sur le budget qui n'a pas été voté et qui va être justement mis sur la table en octobre-novembre. Budget et déficit. Et il ne faut pas oublier que pendant très très longtemps, pour les Républicains, le déficit était ce qu'il fallait éviter à tout prix et qu'il fallait couper autant que possible la taille du gouvernement.
Et on en est de plus en plus loin.
Et avec ce Congrès, avec un Sénat républicain et une Chambre démocrate, est-ce qu'ils vont arriver finalement à boucler ce budget, à résoudre ce problème? Est-ce que on va vers un nouveau shutdown? Parce qu'il faut pas oublier celui qui est maintenant le directeur de cabinet du président, c'est Mukasey, qui était un leader du Tea Party et qui était lui derrière le shutdown du mois de 31 jours au mois
de
janvier.
Le plus long de l'histoire.
Donc ce qu'on fait actuellement, on spécule sur les projets. J'étais philosophe avant de prendre ma retraite et j'aime bien faire ça. Mais il y a cette réalité qu'il faut garder quand même présent à l'esprit.
Corentin Salin.
Par rapport aux quatre dynamiques que vous évoquiez, je dirais qu'on a une chambre démocrate, donc à majorité démocrate depuis janvier 2019, qui s'est muée en premier opposant de Donald Trump, réclamant ses documents financiers, l'attaquant sur le paiement ou pas de ses impôts, enfin l'attaquant de toutes parts, à la fois politiquement et personnellement, mais avec le risque, et ça c'est très important dans la dynamique, d'apparaître comme une chambre d'obstruction et non pas comme une chambre faisant de la législation. Ensuite, cela a eu aussi comme effet de resserrer les rangs des sénateurs républicains, parce qu'il faut rappeler qu'au Sénat, les républicains sont majoritaires, avec le président. Et en ce qui concerne ce que vous évoquiez, la contestation à Trump dans le parti, elle est nulle. Il faut bien comprendre que Trump a mis la main sur le parti. D'ailleurs, ses hommes sont très actifs pour verrouiller toute tentative de contestation réelle en primaire. Alors, il y a une candidature là qui est celle de l'ancien gouverneur du Massachusetts, Weld, mais qui est tout à fait fantaisiste. Donc ça ne compte pas. Trump contrôle le parti et ce sera une énorme différence par rapport à 2016. Et enfin, il y a effectivement une opposition entre les candidats à la primaire qui, eux, sont, j'allais dire, tentés d'aller toujours plus à gauche et qui ne sont pas redevables. Ils peuvent dire, tiens, je suis favorable pour l'impeachment, etc. Ça coûte rien, ça fait plaisir à la base et ça va bien. Mais par contre, on a en face une Nancy Pelosi qui est la dirigeante de la Chambre, qui, elle, est beaucoup plus comptable de ce que fait son institution et qui, on le sent, est beaucoup plus réservée sur l'impeachment puisqu'elle sait très bien que toute tentative d'impeachment serait défaite, au final, par le Sénat républicain.
Laurence Nardon.
Oui, pour revenir à nouveau donc sur le parti républicain face à Trump, donc tout à fait, le parti est totalement inféodé au président actuel, avec une grande couardise de beaucoup de ses responsables, sauf par exemple John McCain, qui n'est plus de ce monde, hélas, mais enfin qui a porté la contestation très maigre.
La bête noire de Donald Trump.
Oui. Et c'est d'autant plus incroyable que Trump fait avaler aux républicains des changements idéologiques sur ce qui était l'âme du parti républicain depuis des années. Alors Dick Howard a parlé tout à l'heure du fait que le déficit public est en train de filer aux États-Unis, ce qui est complètement antithétique avec les principes des républicains traditionnels. Il y a un autre sujet sur lequel Trump les a fait faire un about face, enfin
un
180 degrés. Excusez-moi, merci. C'est la question du libre-échange. Le parti républicain traditionnellement était libre-échangiste parce que le commerce, c'est un win-win pour tout le monde. Il faut absolument qu'on ouvre les frontières. Et avec Trump, évidemment, c'est l'inverse qui se passe puisque il s'est fait élire sur un programme de protectionnisme et de fermeture des frontières à l'économie et puis évidemment à l'immigration. Un mot sur l'immigration. On a aujourd'hui l'impression aux États-Unis, je crois que c'est peut-être un peu pareil en Europe, que les conservateurs sont défavorables à l'immigration alors que les progressistes sont favorables à l'immigration. Aux États-Unis comme ailleurs, ça a été longtemps très différent, parce que les syndicats étaient plutôt à gauche, étaient favorables à un contrôle des entrées, alors que les business republicans, c'est-à-dire les républicains favorables au commerce, voulaient là aussi une ouverture des frontières à une immigration de travail. Et donc, Trump a fait violence à ce parti républicain, c'est vraiment affreux. Et pour terminer, il leur fait violence aussi sur la décence, le principe de décence en politique, qui était quand même quelque chose de très largement répandu, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains aux États-Unis, qui était un peu en déconfiture ces dernières années et auquel Trump porte des coups fatals aujourd'hui.
La décence ?
Ben, la décence, c'est-à-dire le fait de se comporter de manière poli, raisonnable, raisonné dans les débats politiques, de ne pas porter des accusations abjectes contre ses opposants.
Corentin Salin.
Juste pour rebondir sur ce que dit Laurence, ce sera d'ailleurs là aussi un autre grand enjeu de la primaire démocrate, de savoir si certains candidats ou candidates recourront aux mêmes techniques que Trump, aux mêmes techniques de communication. Et justement, le maire de New York que vous évoquiez tout à l'heure, Bill de Blasio, se positionne très clairement comme celui qui, parce qu'il est New-Yorkais comme Trump, va parler cru. Il a dit, moi, je sais comment faire, je vais le prendre, entre guillemets, excusez-moi, mais en face à face viril, vous allez voir. Et il a commencé à l'insulter. Donc, est-ce que les candidats démocrates sont prêts à employer les mêmes techniques de lutte politique que celles mises au goût du jour et qui ont eu du succès de Trump ?
Dick Howard.
On parle comme si nous étions en train de choisir un candidat, comme si nous étions en train de regarder par en haut des choses. Je reviens sur les institutions un instant tout de même, et sur quelque chose qui m'a frappé quand j'écrivais ce livre en français, et je cherchais à traduire le principe fondamental de la Constitution américaine, qui se dit en anglais « checks and balances », qu'on dit en français c'est séparation des pouvoirs, ce qui n'est pas la même chose. Les checks and balances, ce sont justement des freins et des contrepoids. Et actuellement, étant donné la faiblesse des deux partis et la faiblesse de la forme partisane, si l'on veut, il me semble qu'il faudrait plutôt compter sur des contrepoids et se dire, tiens, il y aura une série de contrepoids et l'astuce va être comment est-ce qu'on va mettre ensemble, en rapport, en synchronie, ces contrepoids. Donc, je crois que, encore une fois, jusqu'à ce qu'on vote un budget en septembre, octobre, novembre et qu'on voit les lignes de faille qui vont apparaître, jusqu'à ce moment-là, je crois qu'il faut plutôt chercher des contrepoids à Trump et garder un peu vivant le débat démocratique.
Alors, la question qui est sous-jacente à ce débat, c'est tout de même aujourd'hui, est-ce que Trump peut l'emporter ? Alors, il est évident qu'un président sortant est toujours avantagé. Les élections de mi-mandat de novembre 2018 n'ont pas démontré qu'il y a dans le pays un rejet majoritaire de cet homme ou de sa politique, comme les démocrates s'avertuent à tenter de l'expliquer. Pour ce qui est des atouts de Trump, vous l'évoquiez sur le plan économique, Laurence Nardon, c'est finalement l'augmentation des bas salaires, une réforme fiscale qu'il a réussi à conduire en quelques mois à peine, avec baisse massive des impôts, ce qui se traduit aussi par un trou dans le budget qui va alourdir la dette du pays et qu'il va falloir assumer sur la période 2018-2027. Trump est-il en mesure d'être conduit pour un deuxième mandat, Laurence Nardon?
Alors, ce que je peux dire sans trop m'avancer, parce que ce sont des faits, c'est que Trump, sur beaucoup de sujets, il a tenu ses promesses. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait ce qu'il a dit qu'il allait faire pour séduire à la fois sa base populiste, donc ça c'est les questions de libre-échange, d'économie, etc., mais aussi sa base conservatrice, donc ça c'est les juges conservateurs contre l'avortement, etc., nommés à la Cour suprême et dans toute la pyramide judiciaire du pays. Pour autant, il ne cherche pas, enfin, jusqu'à présent, à élargir cette base. Il est vraiment fidèle à son message populiste et conservateur, donc il y va à fond sur ces sujets-là, et on ne le voit pas faire ce que feraient éventuellement d'autres hommes politiques dans sa situation, c'est-à-dire essayer de ratisser vers les modérés, vers les centristes, vers les indépendants. Et donc, il ne cherche pas à élargir sa base, qui lui est fidèle, qui va voter pour lui, mais qui ne fait jamais que 45% de l'électorat. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la très très forte mobilisation de l'électorat démocrate qu'on a vu en 2018, qu'on va sans doute revoir en 2020, pourrait faire basculer l'élection vers un candidat démocrate. Mais il reste quand même que Trump est un candidat formidable, qui a à son actif donc toutes ses réalisations et le très fort succès de l'économie américaine.
Corentin Célin.
Alors, pour répondre précisément à votre question, oui, il peut l'emporter. Il y a deux arguments assez forts au moment où on se parle. Premièrement, le fait qu'il ne soit pas contesté à l'intérieur de son parti. Tous les présidents récents qui ont fini par perdre la présidence avaient d'abord été contestés en primaire. Lui, il ne le sera pas. Ça, c'est un premier atout pour lui. Deuxième atout, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, un président avec des telles statistiques du chômage, c'est les meilleurs chiffres du chômage depuis 50 ans. Alors après, on peut revenir sur les statistiques, etc. Mais bon, évidemment, c'est un atout majeur. Mais justement, toujours rappeler qu'on est encore à 18 mois de l'élection générale et que à la même distance de l'élection, quelqu'un comme George Bush Senior était le président le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Et on sait que ça a fini, il a fini avec 37% des voix et battu par Bill Clinton en 92. Donc, oui, il a des atouts en sa faveur. Aussi rappeler que l'élection ne se fait pas au vote populaire, mais au collège électoral qui avantage clairement les républicains dans la configuration actuelle. Mais il y a encore beaucoup de temps et tout ça est très variable. Si jamais, par exemple, le chômage venait à réaugmenter, ça compliquerait énormément sa situation.
Dick Howard.
Je conviens tout à fait avec mes deux collègues. Ce que j'ajouterais tout simplement, c'est que Trump a réalisé un coup qui est intéressant. Il a transformé l'adversaire en ennemi. Et la figure du politique change complètement. Et je crois que, par exemple, si jamais, autour de la question tarifière avec le Mexique actuellement, avec la Chine, etc., si les républicains se saisissent un peu, comme ça semble être le cas actuellement pour la proposition de tarifs sur le Mexique, là, s'ils se saisissent, tout ça, ça peut tomber en ruine, parce que d'une certaine manière, excusez-moi l'exemple, mais Trump joue un peu comme un certain président français, c'est-à-dire il a éliminé, on disait qu'il a le contrôle sur le parti, mais en fait, non, il a la mainmise sur chaque membre du parti qui ne pense qu'à sa réélection, qu'à une primaire qui le mettrait en question. Donc, il n'y a rien entre Trump et la base. C'est comme ce qu'on disait de l'Union soviétique autrefois, c'est le pouvoir à la fois le plus fort et justement le plus faible, le plus susceptible de fissures, de se trouver en difficulté.
Alors, Laurence Lardon, vous le disiez, Trump ne cherche pas à élargir sa base. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement il ne va pas changer de tactique et de technique d'ici à l'élection ? Parce que beaucoup estiment que précisément 2020 pourrait être la première élection présidentielle d'une Amérique diversifiée avec une population de couleur qui aujourd'hui devient majoritaire aux États-Unis, ce qui pourrait de fait causer la perte de Trump. Qui par ailleurs aussi, et ça a été dit rapidement par Dick Howard, qui expliquait que Donald Trump transformait ses adversaires en ennemis. Les gens ont compris que Trump finalement divisait beaucoup l'Amérique. Est-ce que ça n'est pas une raison suffisante pour beaucoup de ne pas voter pour lui ?
Je pense que Trump ne va pas changer son message, et notamment je ne le vois pas vraiment s'adresser aux minorités. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'il a fait qui est assez surprenant, qui est la réforme pénale qu'il a engagée. Vous savez que il y a un gros problème aux États-Unis qui est les politiques d'incarcération de masse qui mettent en prison un maximum d'hommes noirs et latinos, beaucoup plus que dans toutes les autres minorités du pays. Et Trump s'est attaqué à ce problème qu'Obama n'avait pas réussi, même s'il le voulait, à régler. Trump a passé une première loi fin 2018 et elle doit être complétée maintenant. Il est également possible qu'il fasse des avancées. Alors ça, c'est poussé par sa fille et son gendre qui, malgré tout ce qu'on dit, sont quand même des progressistes new-yorkais à la base, Ivanka et Jared, faire adopter des mesures en termes de congés de maternité au niveau fédéral. Donc ça,
des mesures pour les
femmes. Je serais personnellement assez surprise, mais on en parle. Donc voilà. Est-ce qu'il pourra se servir de ça pour essayer d'attirer les minorités dans son vote? C'est possible, je ne le vois pas vraiment se faire aujourd'hui. Mais sur l'autre partie de votre question maintenant, vous parliez d'une Amérique très divisée entre minorités, etc. Il est évident que le Parti démocrate sous Clinton avait tablé là-dessus, sur l'idée qu'on allait faire un programme qui s'adresserait pas au peuple américain dans son ensemble, mais à chacune de ces minorités prises comme ça, comme une sorte de mosaïque. C'était plus le melting pot, c'est-à-dire une intégration, mais le salad bowl, c'est-à-dire la salade niçoise. Bon, donc Hillary Clinton avait tablé là-dessus. Bon, ça n'a pas marché dans son cas, mais ce qu'on voit avec la politique avec le projet américain de Trump, c'est que finalement, lui aussi, il défend une minorité, qui est la minorité des blancs ou des petits blancs. Et donc, il est dans la même vision, c'est-à-dire la fin de l'universalisme et la définition du pays comme une suite de minorités. Et donc, Trump ne fait que mettre au premier plan une minorité particulière, mais il ne change pas vraiment le logiciel, si vous voulez.
Très rapidement,
Trump est le premier président blanc des États-Unis. C'était élu en tant que blanc. Les autres présidents pouvaient être des hommes blancs, mais lui,
avoir
il était
bénéficié
élu.
Du
exactement.
Vote. Alors, cette campagne américaine, bien évidemment, nous aurons mille et une occasions d'en reparler. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci, Laurence Lardon. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI et auteur de Les États-Unis de Trump en sans question aux éditions Talendier. Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York et auteur de Les Ombres de l'Amérique de Kennedy à Trump aux éditions François Bourin, et Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire et co-auteur de Les États-Unis dans le monde, de la doctrine Monroe à la création de l'ONU aux éditions Atland. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Kaledek et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Chantal Leroux. À très bientôt.